Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture, une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois et Bertie Bourdon, mais aussi Margot Le Ridon et Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Florent Pujon. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Sémo.
Bonjour.
Aujourd'hui, on va parler de diplomatie française. Emmanuel Macron s'est rendu cette semaine à Jérusalem pour les commémorations de la libération du camp d'Auschwitz, auquel étaient présents de nombreux chefs d'État et de gouvernement, de Vladimir Poutine au vice-président américain Mike Pence, en passant par le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Cette visite était l'occasion d'afficher sa détermination dans la lutte contre l'antisémitisme, mais aussi d'évoquer avec le Premier ministre israélien d'autres sujets d'inquiétude du moment, l'Iran, l'Irak, la Syrie, le Liban, la Turquie ou encore la Libye, comme l'a expliqué Benjamin Netanyahou à l'issue d'un petit déjeuner de travail avec Emmanuel Macron. Mais le président français a-t-il été entendu? Car en effet, que ce soit sur le conflit israélo-palestinien, les tensions entre Téhéran et Washington ou encore la question libyenne, la France semble peinée à jouer son rôle de médiateur. Alors, la politique étrangère de la France est-elle efficace? La France a-t-elle encore un poids sur la scène internationale? A-t-elle encore une voix pour évoquer ces questions? Nous avons invité ce matin Frédéric Charillon. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques. François Hesbourg, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique. Avant d'évoquer tous ces sujets ensemble, place à notre partenariat avec l'association des prix Albert Londres, notre retour d'eux. C'est un retour aujourd'hui d'Angola, un retour au long cours puisque la journaliste qu'on reçoit a été ancienne correspondante sur place à Luanda. Bonjour Estelle Motion.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui journaliste au service économique de Jeune Afrique, mais ancienne correspondante pour l'AFP et RFI en Angola. Alors, dimanche dernier, Estelle Motion, le consortium de journalistes étrangers de l'ICIJ, dont font partie notamment Le Monde et RFI, publiait les Luanda Leaks. Au cœur de ce scandale, notamment Isabel Dos Santos, la femme la plus riche d'Afrique et fille de José Eduardo Dos Santos, qui a régné sur le pays pendant près de 40 ans. C'était entre 79 et 2017. Vous êtes intéressé en particulier à ce clan Dos Santos, à ce système. Vous avez écrit un ouvrage consacré à cette famille, la Dos Santos Company, femme d'affaires. Isabelle a pendant très longtemps incarné la réussite du pays, a incarné son rayonnement, mais en 2017, l'élection d'un nouveau président, João Lourenço, va un peu changer la donne. On va voir tout cela. D'abord, peut-être un mot sur l'actualité qui nous a rattrapé Estelle Motion, puisque hier, on apprenait qu'un banquier portugais, Nuno Ribeiro da Cunha, visé notamment par la justice angolaise dans ses fameux Luanda Leaks, a été retrouvé mort dans son garage. Enfin, suicidé, nous a-t-on dit. Suicidé? Vraiment?
On a encore peu d'éléments sur cette actualité très chaude et avant tout tragique, donc c'est difficile pour moi de commenter. J'ajoute juste qu'il était donc membre de Robic, qui est une banque au Portugal, majoritairement détenue par Isabel Dos Santos. Voilà, ça c'est pour vous donner les informations plus précises.
Et qu'il apparaissait dans ces fameux Luanda Leaks. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? On a à peu près 715 000 documents. Qu'est-ce que ça révèle? Qu'est-ce qu'on apprend qu'on ne savait déjà?
Alors en fait, c'est un travail, il faut rendre hommage au travail considérable d'investigation à partir de ces documents qui sont très nombreux. Et ce que ça expose, dont on n'avait pas une vision très claire jusqu'à présent, c'est vraiment l'ampleur de l'empire d'Isabel Dos Santos, la fille de l'ancien président angolais, et de son mari Sindica Dokolo. C'est aussi un des apprentissages de cette affaire, c'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est elle, Isabel, qui incarnait la réussite du couple. En fait, on s'aperçoit que son mari, Sindica, est aussi associé avec elle dans des sociétés et qu'ils ont aussi chacun de leur côté des sociétés.
Associé même peut-être plus que ça, d'aucuns disent qu'en réalité, peut-être que ce serait lui qui serait le principal, finalement, opérateur dans toutes ces opérations, ces investissements à l'étranger. Enfin, en tout cas, ce qu'on ne pensait pas.
Pas une vision claire. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a plus de 400 entreprises ou filiales, enfin, ou en tout cas participation dans des entreprises, dans plus de 40 pays, et ça depuis 1992. Donc, c'est ce réseau, cette toile qui est intéressant de voir. Ensuite, sur les questions de fond, c'est-à-dire, notamment, par exemple, l'origine de la fortune d'Isabel Dos Santos, ces questions-là, elles datent pas d'hier.
Hein.
Je rappelle qu'il y avait un journaliste angolais qui s'appelle Raphaël Marquez, qui a depuis longtemps posé des questions. Elles étaient revenues sur le tapis aussi, souvenez-vous, quand Forbes avait classé Isabelle première femme milliardaire africaine avant l'âge de 40 ans en 2013. On avait aussi à cette époque-là quand même reposé des questions.
Par exemple, sur la question du rachat des parts de Galp, qui est un géant portugais de l'énergie, on pensait que c'était elle. Visiblement, c'est plutôt lui qui serait derrière tout ça.
Et là-dessus, Ana Gomes, une ancienne eurodéputée portugaise, avait aussi posé la question de savoir d'où viennent ces fonds angolais investis au Portugal, dans quelles conditions, en co-association avec Sonangol, une compagnie pétrolière angolaise. Voilà, ça posait déjà des questions à cette époque-là.
Alors, la question, évidemment, Estelle Motion, et vous avez dû évidemment avoir quelques pistes en faisant cette enquête sur les Dos Santos, mais est-ce qu'on peut considérer que cet argent vient directement des caisses de l'État angolais, ou est-ce qu'il faut un peu nuancer les choses?
Alors, je pense qu'il faut nuancer les choses, et c'est d'ailleurs ce que je pointe dans une tribune que j'ai publiée dans Jeune Afrique dans l'édition de lundi. Ce qui est intéressant avec les Luanda Leaks, c'est qu'on voit qu'il y a toute une série de situations, donc des accusations, des soupçons, des accusations de détournement de fonds, de conflits d'intérêts, de transactions opaques, mais aussi de co-investissements dont on n'a pas vraiment le début et la fin, et aussi des situations d'optimisation fiscale, d'utilisation de sociétés écrans. Là-dedans, tout ça est très intéressant. On n'avait pas une vision claire de ça avant. Ça restait dans l'ombre. Là, c'est intéressant de s'exposer. Maintenant, ce qui va être difficile, c'est de voir quelles sont les situations qui sont légales, qui font partie de ce qu'on appelle optimisation fiscale. Quelles sont les situations qui sont illégales et qui pourraient faire l'objet de poursuites par la justice. C'est ça qui va être intéressant de trancher aujourd'hui.
Il y a un troisième acteur qu'on n'a pas encore évoqué, Estelle Motion. Vous avez parlé de Sindica Dokolo, le mari d'Isabelle Dos Santos. C'est le frère dont on n'a pas encore parlé, l'un des fils de l'ancien président, le premier d'ailleurs, José Filomeno Dos Santos, que vous avez eu l'occasion de croiser, je crois.
D'interviewer, oui, en 2012.
Qui est-il et quelle est sa place dans le système, dans la compagnie Dos Santos? Parce que lui aussi, il en a eu une place.
Il en a eu, en effet. Alors, moi, dans le livre, je l'appelle le fils sacrifié. C'est assez fort. Pourquoi je l'appelle comme ça? Parce que quand on regarde son parcours, on s'aperçoit que c'est un des derniers arrivés dans le système. Avant 2012, c'est quasiment un inconnu à Luanda.
Qu'il n'avait pas envie, vraiment.
C'est un père de famille qui était actif dans la banque, qui sans doute aimait profiter d'un relatif anonymat.
Il pouvait aller dans la rue sans qu'on le reconnaisse forcément.
Exactement. Et en 2012, il commence à entrer dans la lumière quand il est nommé dans le trio d'administrateurs qui prend la tête du fonds souverain angolais doté de 5 milliards de dollars. Déjà, ça commence à poser des questions. Et un an après, il est propulsé président de ce fonds souverain. Donc là, il est à la tête quand même d'un fonds qui représente 5 milliards de dollars. Et donc ça, c'est la période positive, et elle dure pas très longtemps, puisque à l'arrivée du nouveau président Juan Lorenzo en 2017, il est remercié. Et donc, juste après, début 2018, il est mis en examen et placé en détention provisoire. Vous imaginez pas le choc que ça a représenté à Luanda d'avoir un Dos Santos en prison. Il y avait des personnes qui venaient aux portes de la prison pour vérifier que c'était bien vrai. Les gens n'y croyaient pas. Donc ça a été un très fort choc symbolique de voir qu'on passait à une autre ère. Et donc, je précise juste qu'il est poursuivi non pas pour sa gestion du fonds souverain, mais dans le cadre de la constitution d'un autre fonds de 35 milliards de dollars et qui aurait donné lieu à un détournement de 1,5 milliard de dollars. Mmh. Ça, c'est juste pour le côté technique. Et aujourd'hui, ce José Filomeno est jugé depuis la fin de l'année et encore aujourd'hui là à Luanda.
Est-ce que ces difficultés, disons-le, avec la justice sont à mettre directement en lien avec l'arrivée au pouvoir du nouveau président Lorenzo?
L'arrivée au pouvoir de Juan Lorenzo a constitué une rupture, un tournant pour l'Angola. D'abord, c'était la fin de... Et pour le clan Dos Santos. C'était la fin de 38 ans de présidence Dos Santos. Faut imaginer ce que c'est 38 ans avec le même président. Donc ça, c'est une première rupture. Et ensuite, à son arrivée au pouvoir et même pendant la campagne présidentielle, Juan Lorenzo, qui est issu du même parti que Dos Santos, le MPLA, a eu des mots très forts. Il a dit l'ennemi public numéro un, à partir de maintenant, c'est la corruption, le népotisme. C'était des mots très forts. On n'avait jamais entendu publiquement des mots comme ça en Angola, donc c'était très fort. Et ces déclarations fortes ont été suivis de limogeages, d'annonces qu'on allait faire différemment, qu'on allait se conformer à davantage aux standards internationaux, plus d'autres réformes sur le plan économique. Donc c'est sûr que sur ce plan-là, c'est très fort. Il y a des ministres qui sont traduits en justice, des gens qui sont poursuivis, on doit rendre des comptes. Dans ce cadre-là, la famille Dos Santos a été l'une des premières touchées. Le clan Dos Santos dit qu'il s'agit
d'une instrumentalisation politique.
D'une justice politique. Le pouvoir, les autorités à Luanda disent la justice fait son travail, il n'y a pas de traitement différencié de l'un à l'autre.
Vous en pensez quoi, vous?
Et d'autres personnes dans la société civile ont un regard intéressant en disant si les Dos Santos sont particulièrement suivis, c'est aussi à mettre en rapport au fait qu'ils avaient une situation de toute puissance, d'omniprésence dans le pays. Donc voilà un peu les forces en présence.
Et vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu effectivement une instrumentalisation de la justice à des fins politiques? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a un réel désir du nouveau président de lutter contre la corruption et donc évidemment, mécaniquement, les Dos Santos se retrouvent dans le viseur?
Moi, je rappelle juste que l'accusation d'une justice politique, elle date pas d'hier en Angola, qu'elle avait déjà cours sous Dos Santos. Pourquoi? Parce que même s'il y a une séparation dans la constitution du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire, dans les faits, le président a forcément un impact sur la justice, ne serait-ce que parce qu'il nomme les hauts magistrats. Donc la question qui se pose aujourd'hui, elle se posait déjà avant. Elle prend une autre teneur et une autre ampleur parce qu'aujourd'hui, on est dans cette situation où la famille Dos Santos n'est plus au pouvoir, n'est plus la famille présidentielle, et donc elle est dans une autre situation de pouvoir.
Estelle Motion, faisons un petit peu d'histoire et revenons justement sur l'arrivée au pouvoir des Dos Santos. Vous y consacrez une large part dans votre livre. José Eduardo Dos Santos, il arrive à la fin des années 70, il est tout jeune, il n'a même pas 40 ans, il a 37 ans quand il arrive au pouvoir. Vous nous rappelez le contexte dans lequel il arrive?
Oui, c'est un contexte tout à fait particulier. Le premier président de l'Angola, qui s'appelle Agostinho Neto, qui est vraiment le père de l'indépendance, qui est aussi le mentor de José Eduardo Dos Santos, est malade et il décède à Moscou, brutalement. Et donc, le MPLA, qui est le parti au pouvoir, et le mouvement de libération qui s'oppose à l'UNITA, il doit trouver un nouveau leader.
Le mouvement populaire de libération de l'Angola, voilà, d'inspiration marxiste-léniniste.
Soutenu par le bloc communiste, parce que souvenez-vous qu'on est en pleine période de guerre froide, face à l'UNITA, soutenu plutôt par le bloc de l'Ouest. Le MPLA se retrouve sans leader, en pleine guerre civile, avec l'UNITA qui est en train de vouloir entrer dans Luanda. C'est la panique. Donc il faut nommer un nouveau leader. Et c'est José Eduardo Dos Santos qui arrive dans ce contexte-là. Et de ce qu'on peut voir, c'est que il avait peu de monde aurait parié sur lui, quoi. Et puis finalement, 38 ans après, il est encore là. Donc c'est ça qui est intéressant.
S'il se maintient, c'est parce que évidemment, il a dans un premier temps, en tout cas, le soutien de Moscou. Après, il a le soutien d'autres pays. On se souvient, on est bien placé, nous ici, de l'Angola Gate, qui évidemment avait aussi mis il y avait des responsables de la classe politique française qui étaient liés à tout ça, hein. Pierre Falcone, Charles Pasqua, pour ne pas les nommer, Jean-Christophe Mitterrand également. Donc il y a eu aussi eu le soutien de la France.
Alors il y a eu quelque chose qui est très intéressant qui s'est produit, c'est que vraiment l'histoire de l'Angola a collé avec l'histoire, le contexte international, parce que José Eduardo Santos arrive au pouvoir en 79, et ensuite souvenez-vous, dans les années 90, il y a un retournement. D'abord en 91, l'URSS implose, elle n'existe plus, et ensuite en 93, il y a un retournement. Les États-Unis finissent par reconnaître en fait l'Angola finissent par reconnaître le MPLA comme étant et José Eduardo Santos comme étant le gouvernement. Et là, en plus de ça, il y a la campagne des diamants du sang qui était jusqu'à présent. Les diamants jusqu'à présent servaient principalement à alimenter l'effort de guerre de l'UNITA. Du coup, le MPLA récupère, qui avait déjà le pétrole, récupère aussi les diamants. Et à la faveur de ce retournement d'alliance sur le plan international, finit par avoir le soutien des États-Unis, puis de l'Europe, dont la France. C'est comme ça que ça s'est opéré. Et que José Eduardo Santos, en fin stratège, a réussi aussi à manœuvrer dans ce contexte difficile sur le plan interne. Le pays est en guerre jusqu'en 2002. Et puis sur le plan international, où il navigue alors que le paysage international se recompose.
Aujourd'hui, c'est la Chine qui est extrêmement présente toujours en Angola.
Oui, là c'est aussi l'illustration de la façon dont l'Angola et José Eduardo Santos a réussi à s'imposer sur la scène internationale. En 2002, après le, donc c'est la paix, l'accord de paix est signé, il faut reconstruire le pays. Il y a la manne pétrolière, mais l'Angola, le pays est dévasté, donc il y a tellement de besoins qu'il faut aussi recourir à l'aide internationale. Au début, l'Angola négocie avec le Club de Paris, avec les Occidentaux. Mais ça marche pas, les Occidentaux veulent imposer des conditions de transparence, notamment. Et donc, en parallèle, l'Angola négocie avec la Chine. Et là, à ce moment-là, la Chine veut justement aller à l'étranger, et notamment en Afrique. Et donc, la Chine va massivement participer à l'effort de reconstruction angolais. Et les Angolais vont abandonner les Occidentaux en disant « c'est bon, on a trouvé une autre solution ». On a la Chine, avec les questions que ça pose sur la qualité des travaux, l'opacité des accords, des prêts qui sont signés. Mais en tout cas, c'est l'illustration de cette capacité comme ça à se sortir de situations internationales.
Avant de revenir un instant à Isabel dos Santos, encore un tout petit mot sur la question de la guerre civile. Vous disiez, c'est vrai, elle a duré très longtemps, 75-2002. Quelle responsabilité pour dos Santos dans la longévité de ces guerres? Je veux dire, est-ce qu'il s'est maintenu grâce à cette guerre civile et inversement? Est-ce que la guerre civile a été si longue parce que dos Santos?
Il y a eu, alors là c'est une question pas évidente, il y a eu plein de facteurs à prendre en compte. Je pense que le contexte international a beaucoup joué aussi. Et voilà, c'est difficile pour moi de vous faire, faire une réponse.
Sur Isabel dos Santos, elle a laissé entendre très récemment qu'il n'était pas totalement exclu qu'elle se présente aux prochaines élections de 2022.
Oui.
C'est possible? Est-ce qu'elle a vraiment un avenir politique?
Alors, c'est une déclaration qu'elle a faite donc à la télévision portugaise, la RTP. Je pense qu'il faut replacer donc la déclaration dans le contexte, le premier contexte qui est qu'elle est elle est sous le coup de procédures en Angola et au Portugal, et que là elle est exposée et qu'elle est donc dans une stratégie de réaction, de communication pour se défendre, pour dire que les accusations qui sont portées contre elle sont injustifiées. Donc ça c'est le premier point. Ça s'inscrit tout ce qui se passe aujourd'hui, et les louanges d'Alix ne peuvent pas être compris si on ne sait pas qu'il y a eu cette lutte contre la corruption lancée par Juan Lorenzo en 2017. La deuxième chose qui est très intéressante à rappeler, c'est que cette déclaration, si elle est vraiment suivie des faits, ça constitue une rupture par rapport à ce qu'elle a toujours dit. Elle parlait très très peu avant, elle parle un peu plus maintenant. Elle a toujours dit qu'elle... Moi, je ne suis pas une femme politique, je suis une femme d'affaires, je fais des affaires. Souvenez-vous, en 2013, dans un lunch with FT, c'est exactement ce qu'elle dit. Donc, au Financial Times, elle dit « je fais des affaires, pas de politique ». Donc, s'il y a un changement, ce sera vraiment une rupture là aussi.
Et le cas échéant, si elle se présentait, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'elle soit élue? Je veux dire, est-ce que la population aujourd'hui pourrait élire cette femme?
C'est très difficile de répondre à cette question. Les élections, elles sont dans 2 ans. En 2022, il peut encore se passer beaucoup de choses. J'ajoute, pour aider à comprendre ce qui se joue, les élections en Angola, ce sont des élections générales. Donc, en fait, le parti qui remporte le plus de suffrages est celui
qui désigne le président.
Donc, pour gagner, il faut être porté par le MPLA. Donc ça c'est un des éléments à prendre en compte. Est-ce que le MPLA serait prêt à porter la candidature de quelqu'un d'Isabel dos Santos?
Alors je pose la question différemment et ça sera ma dernière question. Si on regarde l'opinion angolaise, est-ce que vous avez le sentiment que le rejet des dos Santos est aujourd'hui encore très fort, ou finalement quand les gens font un peu le bilan précisément de Lorenzo qui est arrivé il y a pas si longtemps que ça, mais on se dit bah c'est pas beaucoup mieux, donc peut-être qu'on a intérêt à retourner vers l'option première?
Alors, il y a eu un immense espoir au moment de l'arrivée de Juan Lorenzo. Pour l'anecdote, il y avait une image qui cartonnait sur les réseaux sociaux. C'était l'affiche du film Terminator avec la tête de Juan Lorenzo. Donc, c'était le Terminator, il va mettre fin au système. Ce mouvement est un peu retombé, s'est essoufflé de par les difficultés économiques et socio-économiques du pays. Je pense que les Angolais, la population, elle est surtout en attente d'amélioration de ses conditions de vie, peu importe qui peut porter
cette
amélioration.
Ce qui n'est pas encore le cas. Merci infiniment Estelle Motion. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage, La Dos Santos Compagnie, mainmise sur l'Angola, qui est paru chez Cartala. Et je rappelle que vous avez été correspondante sur place de 2002 à 2015. Merci infiniment Estelle Motion. On mettra évidemment les références de votre ouvrage sur la page de Culture Monde. Merci.
Autoconstrução dirigida, agora tens a autoconstrução demolida. Fuderam-te a vida, 5 anos, agora vão trazer-te anestesia. Vários caminhões de birra, água para todos, moradores da cidade alta. No cuné, no gado morre, mano, a seca mata. E a solução para zungas são porradas, extorsão de muitos kwanzas. Prisão arbitrária, mas agora tudo parece promissor. Abriram vagas de campanha, ofício engraxador. Se corres ainda apanhas, Yurde fez o dia do
voilà,
fim.
Voilà, c'est la voix d'un rappeur angolais, Luati Berao, qui a d'ailleurs fait un petit séjour du côté de la prison pour avoir précisément critiqué Dos Santos. On tourne cette page angolaise, on se redirige vers la France. La France a-t-elle encore une voix sur la scène internationale? C'est la question qu'on se pose ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Puisque cette semaine, Emmanuel Macron se rendait en Israël pour les commémorations du 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, le président français a eu un petit coup de colère à l'encontre du service de sécurité israélien à l'entrée de la basilique Sainte-Anne, administrée par la France.
We know perfectly, everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me. Go outside. Nobody has to provoke, nobody, okay? We keep calm. You did a great job in the city, I do appreciate guys. Please respect the rules as they are for centuries. They will not change with me. I can tell you. Okay?
Voilà, un incident qui avait évidemment rappelé l'altercation dans les mêmes lieux d'ailleurs entre Jacques Chirac et les soldats israéliens en 1996. Cette effusion de voix apparaît d'autant plus frappante que, en réalité, celle-ci peine à porter sur la scène internationale. On va le voir sur le nucléaire iranien, dans le conflit syrien, la Libye ou encore des tentatives de médiation française échouent. Que pèse justement la France, la voix française dans ce concert des nations? Pour évoquer ces questions, Frédéric Chatillon, professeur de sciences politiques, est avec nous. Je rappelle que vous avez participé à un ouvrage collectif, Notre intérêt national, quelle politique étrangère pour la France, était chez Odile Jacob, mais aussi manuel de diplomatie. François Hesbourg est également avec nous. Le plus récent de vos ouvrages, François Hesbourg, cet étrange nazi qui sauva mon père et comment perdre la guerre contre le terrorisme, chez Stock pour le dernier et aussi pour l'avant-dernier. Marc Semo, on va commencer avec vous comme on le fait chaque vendredi. Alors, au-delà de la séquence qui est apparue quand même comme une copie de ce qu'avait fait Jacques Chirac en 1996, où il avait intimé à ses agents de sécurité israéliens de laisser venir les gens en les menaçant de reprendre l'avion pour rentrer chez lui, on s'en souvient. Ce coup de colère de Macron, ce coup de gueule, on pourrait dire, de Macron, il faut aussi l'analyser au prisme de ses difficultés à se faire entendre ces derniers mois sur la scène diplomatique. On a l'impression qu'Emmanuel Macron élève la voix, espérant qu'il va se faire entendre, parce qu'il a beaucoup de difficultés précisément à se faire entendre ces derniers mois.
Oui, c'est possible. Alors, il y a un incontestable art de la communication et aussi un incontestable volontarisme diplomatique macronien. Et on ne peut que saluer ses efforts de trouver une médiation sur le nucléaire iranien entre Washington et Téhéran, entre le G7 de Biarritz et New York à l'ONU, ou ses engagements sur le dossier libyen dès son élection, même si dans un cas comme dans l'autre, il n'y a pas eu de résultat. Et c'est bien là le problème. À peine élu, Emmanuel Macron a bénéficié sur la scène internationale d'un extraordinaire alignement de planètes. Il y avait un Donald Trump imprévisible, un Royaume-Uni englué dans le Brexit, Angela Merkel affaiblie. Donc, de fait, Emmanuel Macron était le leader naturel de l'Europe, voire de l'Occident. Mais le problème, cette force, était aussi sa faiblesse. Parce qu'Emmanuel Macron, de fait, n'avait pas d'alliés. Et on le voit, concrètement, il n'a pas réussi à influencer Donald Trump, qu'il avait acheté à la baisse, mais ça n'a pas marché. En Europe, il est regardé avec une certaine méfiance et ses accents gauliens, pour ce tournant russe qu'il appelle de ses voeux, dénonçant même l'état profond, c'est-à-dire les constances de la diplomatie française, ont plutôt inquiété ses partenaires européens, surtout à l'Est, sans pour autant faire bouger un Vladimir Poutine, ravi d'avoir retrouvé son rôle de puissance internationale avec un produit intérieur brut à peine supérieur à celui de l'Espagne.
Voilà, alors le décor est planté. On va parler évidemment de l'Europe, des États-Unis, des relations avec la Russie. On parlera du dossier iranien, libyen, etc., etc. Mais d'abord, peut-être une première réaction sur le coup de gueule que j'évoquais François Hesbourg, qui est quand même un peu aussi à lire au prisme de ses difficultés, disais-je, à peser précisément sur la scène internationale. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce coup de gueule, François Hesbourg?
Le coup de gueule m'a pas inspiré grand-chose pour une raison très simple. C'est que si quelqu'un savait faire de la médiation dans le conflit israélo-palestinien, et ça saurait. Hein. Est-ce que Poutine y arrive? Est-ce que Trump y arrive? Est-ce que la France y arrive? Est-ce que la Chine y arrive? Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que moi j'y arrive? La réponse est zéro à la barre, rien du tout. Le fait que le président Macron se heurte à un problème impossible et ne parvient pas à le résoudre, ça ne dit pas grand-chose des capacités ou des manques de capacités de Macron, ça dit tout sur le caractère insoluble du problème. Je mettrais vraiment ce sujet-là dans la case parlons d'autre chose si on veut parler de ce que sait faire ou pas faire d'ailleurs la politique étrangère française.
Frédéric Charillon, est-ce que vous êtes totalement d'accord avec ce que dit François Hesbourg, même si on pourrait peut-être quand même interroger la position française sur cette question du conflit israélo-palestinien, à la fois pour se demander ce qu'elle peut encore faire, mais aussi les positions, et qui est celle évidemment de l'ensemble des Européens, de soutenir encore cette solution à deux États qui, en tout cas, du point de vue israélien, n'est pas tenable parce que pas réaliste. En tout cas, c'est ce que pense l'État hébreu. Est-ce que finalement, continuer à avoir cette posture sur ce problème-là, est-ce que ça peut aboutir? Parce que ça peut
avoir... a toujours été très difficile, effectivement, pour la France et pour l'Europe de se faire entendre dans la région. On sait qu'il y a eu plusieurs tentatives de créer un contexte, voire un cadre politique méditerranéen pour essayer d'accompagner un processus de paix, mais ce processus de paix n'a pas eu lieu. C'est ça, en réalité, le problème de cette histoire. C'est-à-dire que Barcelone 95 est arrivé juste trop tard pour accompagner le processus de paix entamé en 93, enfin en tout cas consacré par la poignée de main Rabin Arafat du 13 septembre 93. Mais entre-temps, Rabin a été assassiné, tout s'est désagrégé, l'Europe est arrivée trop tard. Il y a eu une tentative de relance en 2008 avec Nicolas Sarkozy dans l'Union pour la Méditerranée. Bon, ça n'a pas marché non plus. Alors pourquoi ça n'a pas marché? D'abord parce qu'effectivement, pourquoi est-ce qu'on a du mal, la France et l'Europe, souvent ce sont des initiatives soutenues par la France d'ailleurs, à l'origine. Mais pourquoi est-ce que ça ne passe pas? D'abord parce qu'on est toujours rattrapé par une actualité moyen-orientale dramatique. Alors soit c'est les bombardements sur Gaza, soit c'est l'Irak, soit c'est etc., etc. Les Européens ont essayé de proposer un projet de paix qui ressemble beaucoup à la réconciliation franco-allemande, c'est-à-dire essayer de faire travailler les parties sur des dossiers techniques. On se souvient des projets de tourisme en commun, de dépollution de la Méditerranée, etc. Mais face à des enjeux aussi dramatiques comme ceux de Gaza, du Liban, de l'Irak, on a autre chose en tête dans la région. Ça, c'est le problème principal de la France.
La France, Emmanuel Macron, pardon, qui a dit que évidemment la France n'avait pas du tout comme projet d'arriver avec une feuille de route pour la paix, mais qu'elle aidera, qu'elle soutiendra ce qui peut être encore soutenu, sachant que les États-Unis, eux, devraient bientôt proposer une solution, peut-être. Maximo.
Justement, Donald Trump a annoncé qu'il allait présenter la semaine prochaine son plan sur le conflit israélo-palestinien. On peut craindre le pire. Alors, est-ce que justement, c'est pas ça le problème? C'est-à-dire que finalement, l'histoire de l'Occident depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au niveau de l'ONU, ça a été le P3. C'est-à-dire ces trois pays, États-Unis, Grande-Bretagne, France, qui globalement ont été à l'initiative d'à peu près tout, naviguant entre les vétos russes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, à la décharge de Macron, on ne peut pas dire que la raison de l'impuissance française, alors on le voit sur le conflit israélo-palestinien, mais aussi sur la Syrie ou sur d'autres, c'est la fin du P3. C'est-à-dire, il y a Donald Trump qui fait ce qu'il veut de son côté, un Royaume-Uni qui est absent, et une France qui est toute seule, mais finalement qui n'a pas de vrai poids. Alors est-ce que c'est pas ça, fondamentalement, ce qui fait que Macron... Bon, malgré son volontarisme, finalement, il n'a pas beaucoup de cartes en main.
François Hesbourg.
Il a pas plus de cartes en main que quiconque d'autre. Trump nous a annoncé il y a un an et demi qu'il allait proposer le lendemain et un plan comme vous n'en avez jamais vu pour faire la paix entre Israël et la Palestine. Bon, il remet le plat. et en vue des élections de 2020, on en reparlera en 2024. Et si je puis dire, et que ce soit le P3 ou le Quartet ou le P5, le Conseil de sécurité, et le fond du problème, c'est que le logiciel qui avait été bâti par les Palestiniens et les Israéliens il y a maintenant près de 30 ans et n'a pas marché. Un territoire contre paix, ça n'a pas marché. Et vous parliez de ce que pense l'État hébreu. Moi, je ne sais pas ce que pense l'État hébreu.
Non, Benjamin Netanyahou, pardon.
Voilà. Benjamin Netanyahou
est encore Premier ministre.
Il est encore Premier ministre. Il est depuis longtemps. Il ne croit pas à la solution des deux États. L'opinion publique, reste, d'après les sondages d'opinion, très largement, faute de mieux, plutôt attaché à une solution qui déboucherait sur deux États, mais de façon molle. Franchement, non, c'est pas là-dessus que l'on peut juger Macron. La seule chose que l'on puisse dire, c'est qu'au moins, pas plus que ses prédécesseurs immédiats, il n'a aggravé ou envenimé le problème. C'est le mieux que l'on puisse attendre aujourd'hui de l'influence des États extérieurs par rapport à ce problème qui est un problème israélo-palestinien.
Frédéric Charillon, avant de passer à l'Iran, ce que disait Marc Semo, c'est-à-dire au fond le vrai problème de Macron, c'est que le P3 a volé en éclats.
Ça n'aide pas, évidemment, parce que c'est vrai que les quelques fois où on a réussi à peser, et encore provisoirement, c'était généralement dans des combinaisons où les Britanniques et les Américains étaient avec nous, et quand il en manquait un des trois, pour nous, un des deux, c'était très difficile. Quand on a fait bouger un petit peu les lignes au Liban, avec des résolutions pour faire sortir les troupes syriennes du Liban, c'est au milieu des années 2000, après notamment l'assassinat de Rafik Hariri, c'était évidemment en tandem avec les Américains. Souvent des motions ou des textes qui ont été élaborés par les diplomaties européennes sur le Proche-Orient étaient le fruit d'une collaboration très, très étroite avec entre les Français et les Britanniques. Le fait de ne plus avoir ça, effectivement, avec Trump, est un vrai problème. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que la France souhaite rappeler des positions de principe, notamment la solution des deux États. Sous François Hollande, il y a eu deux conférences à Paris pour essayer de relancer cette idée d'une solution à deux États, mais sans les principaux protagonistes, ce qui, évidemment, était plus que voué à l'échec. La question qu'on doit se poser, c'est dans ces cas-là, quand on voit que des principes de droit international ou des textes anciens sont bafoués littéralement par plusieurs puissances, à commencer aujourd'hui par les États-Unis, est-ce que la France a raison de s'acharner ou est-ce que c'est déjà peine perdue? Souvent, la réponse française, c'est non, on va continuer quand même, parce que c'est notre rôle au Conseil de sécurité des Nations Unies que de rappeler certains principes. Des réalistes plus durs et plus cyniques auront tendance à dire, évidemment, vous voyez bien que sur le terrain, c'est terminé. C'est un vrai débat, c'est un vrai dilemme.
François Hesbourg, vous vouliez réagir et puis ensuite on passe à l'Iran.
Oui, d'abord, effectivement, cette situation, s'agissant de ce que vous appeliez le P3, ne remonte pas à Trump, elle remonte à Obama. Et lorsqu'Obama a décidé que les États-Unis devaient réduire la voilure au Moyen-Orient, en refusant notamment d'appliquer ses propres lignes rouges en Syrie, 4 heures avant le décollage des bombardiers français et américains, et il a ouvert un champ stratégique à la Russie. La Russie a rempli ce champ stratégique en Syrie avec beaucoup d'efficacité, mais la Russie en elle-même n'est pas non plus une alternative. Vous regardez l'affaire iranienne. Les Américains se retirent de l'accord nucléaire négocié à grande peine il y a 5 ans. Et est-ce que la Russie et la Chine, qui font partie avec nous, et les Britanniques et les Allemands et l'Union européenne de cet accord nucléaire, est-ce qu'ils sont plus capables que nous de maintenir en vie l'accord nucléaire et de trouver le chemin d'une sortie avec l'Iran? La réponse est non. C'est-à-dire, c'est pas la France qui est faible, c'est l'ensemble des acteurs qui sont présents sur la scène. On est dans un chaos, on est dans une anomie, ça peut éventuellement changer, et moi je fais partie des gens qui regardent d'ailleurs de façon non critique le fait que la France rappelle des positions de principe, parce qu'à vrai dire, c'est probablement ce qu'on a encore de mieux à faire, parce qu'au moins on n'ajoute pas au chaos, on n'ajoute pas au bordel, et éventuellement, un jour, des opportunités se présenteront. Celui qui aura tenu la route en ce qui concerne les principes, ce qu'on appelle dans le langage diplomatique, notamment du temps des soviétiques, les positions constantes, celui-là ne sera pas forcément le plus mal placé. Hein.
Frédéric Charillon, sur l'Iran, depuis Jérusalem, voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron, entre autres. Hein. La France restera attachée à ce que l'Iran n'acquiert jamais l'arme nucléaire, mais aussi à éviter toute escalade militaire dans la région. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette déclaration? Est-ce que c'est une fermeté relativement nouvelle à l'égard de Téhéran, ou au moins une prise de distance, après avoir fait montre quand même d'une certaine bienveillance à l'égard de l'Iran?
Non, ça a toujours été, enfin bon, le ton est ferme, mais ça a toujours été la position, mais qui en même temps est une quadrature du cercle. C'est-à-dire que la position française, mais comme celle de beaucoup d'autres diplomaties, ça a toujours été de dire pas d'armes nucléaires iraniennes, mais pas de guerre non plus contre l'Iran. Bon, et alors là, l'approche s'oppose à ceux qui disent, à un moment, il y aura un choix à faire. C'est-à-dire que si on veut vraiment empêcher l'arme nucléaire iranienne, il va falloir à un moment peut-être confronter l'Iran. Mais il n'y a pas une nouveauté, simplement, la France a toujours été très ferme. Pas toujours, mais notamment sous François Hollande, lorsque Laurent Fabius faisait renforcer les textes et souhaitait faire retravailler les textes pour aboutir à un accord plus ferme et plus précis, souvent d'ailleurs à la grande rage des Américains qui voulaient un accord plus rapidement, on était un petit peu déjà dans la même perspective.
Marc Simon.
Oui, juste un point là-dessus. Emmanuel Macron a dit ouvertement, dans une conférence de presse à New York, il y a 2 ans, entre Donald Trump et moi, oui, c'est good cop, bad cop, bon flic, mauvais flic, c'est-à-dire on partage le même but qui est celui de bloquer toute possibilité d'une arme nucléaire pour l'Iran, même si nous divergeons sur les méthodes.
Sauf que quand même, Marc Simon, la différence aussi, c'est que depuis quelques mois maintenant, Donald Trump met la pression sur les Européens pour qu'on mette en place des sanctions économiques sur Téhéran. Ça a quand même un peu évolué, cette position-là. François Hesbourg.
Mais l'espoir de Macron, il y a 2 ans, c'était de convaincre Trump de ne pas quitter les accords nucléaires.
Plutôt maintenant, la pression.
Et aujourd'hui, c'est Trump.
Mais la pression, ça fait 15 ans qu'on la maintient. Ouais. Et avec les Russes et avec les Chinois. Faut pas oublier que il ne s'agit pas d'une aventure occidentale solitaire conduite par un P3 dont, à vrai dire, je n'avais pas entendu parler jusqu'à cette émission. ce qui a joué dans l'accord nucléaire, c'est le P5. P5 plus les Allemands, plus l'Union européenne. Et les Chinois, pas plus que les Russes, ne sont enthousiastes à l'idée de voir l'Iran posséder l'arme nucléaire. Ces pays font face à la même contradiction que nous. Et donc, encore une fois, si l'on veut réduire le débat sur la politique étrangère uniquement au Moyen-Orient, on va s'apercevoir qu'il y a très peu de possibilités pour quiconque d'avoir de l'extérieur, d'avoir une influence forte sur le cours des choses. La réussite des Russes en Syrie, réussite opérationnelle, hein, je ne suis pas en train de dire c'est formidable ce qu'ils ont fait, c'est le contraire. Hein, je considère que c'est épouvantable. Mais leur réussite est une exception aussi étonnante dans la région que la réussite des Français et des Britanniques à renverser Kadhafi en Libye en 2011. On fera le bilan de l'intervention russe dans 5 ou 10 ans.
Frédéric Charillon, et puis ensuite, encore un mot sur l'Iran, et ensuite on passe à la Libye. Dans sa conférence de presse après qu'a suivi l'opération visant le général Soleimani, Donald Trump a enjoint les Européens à prendre acte du fait que l'accord sur le nucléaire était mort, terminé, et donc à prendre les décisions qu'il fallait. Et quand on lit entre les lignes, les décisions, c'est en réalité poser des sanctions économiques à l'égard de l'Iran. Est-ce que vous avez l'impression que sur ce point-là, les Européens ont un peu changé de position et sous la pression de Washington pourraient finalement s'aligner?
La pression de Washington, elle est toujours très forte et on finit souvent par s'aligner, c'est vrai. Mais là-dessus, je crois que les Européens ne sont pas d'accord. Ils ont essayé de mettre au point un vague mécanisme qui permettrait de continuer d'avoir des relations commerciales avec l'Iran, mais qui pour le moment reste assez marginal et ne permet pas évidemment de contourner la pression américaine. Alors là où ils sont d'accord avec les États-Unis, c'est qu'effectivement, je crois que Donald Trump ne veut pas non plus de guerre avec l'Iran. D'abord, je ne pense pas qu'il y ait intérêt avant une élection présidentielle, parce qu'il a toujours promis le contraire à son opinion publique, à son segment d'opinion publique, à son électorat, c'est-à-dire sortir des guerres du Moyen-Orient. Je crois que s'il en rajoutait une contre l'Iran, ça serait pour lui très, très contre-productif. Il a écarté lui-même John Bolton, qui était plus partisans de cette guerre. Là-dessus, on est à peu près en phase avec les États-Unis. Là où on ne l'est pas, effectivement, c'est sur la sortie de l'accord. Et maintenant, ça va au-delà. C'est-à-dire, il y a une pression pour des sanctions supplémentaires. Ça n'arrange personne en Europe. on se retrouve face à une situation qu'on connaît bien, c'est-à-dire qu'on est totalement opposé à la position américaine, au moins sur ce point-là des sanctions. Est-ce qu'on a les moyens de s'y opposer du point de vue de l'autonomie stratégique? La réponse est non.
Surtout quand la pression est si forte. Il se dit, dans les couloirs que visiblement Donald Trump aurait dit que
du chantage.
Oui. Dit on va augmenter de 25% les importations sur les automobiles européennes. Donc
il y a un élément qui joue, malheureusement, c'est que les Iraniens sont en train eux-mêmes, non pas de de dénoncer l'accord, mais dans les faits d'en sortir en disant, ben voilà, on ne se sent plus liés par ce qu'il y a dans l'accord, on reprend l'enrichissement, etc. Donc la question des sanctions se posera naturellement si les Iraniens continuent dans cette ligne de s'affranchir totalement de ce que prévoyait l'accord.
François Hesbourg.
Oui, faire très attention. Les Iraniens n'ont pas relancé l'enrichissement. Les Iraniens n'ont même pas dit qu'ils allaient relancer l'enrichissement. Les Iraniens ont dit qu'ils s'affranchissaient des contraintes de l'accord en la matière, tout en restant dans l'accord. Ils n'ont pas, à ce jour, à mon sens, commis d'actes qui les mettent hors de l'accord. S'ils donnent suite à ce qu'ils ont dit, là, ils se mettraient en dehors de l'accord. Donc, il y a une espèce de ligne de crête qui est gérée comme telle par les Iraniens. Ils n'ont, pour l'instant, semble-t-il, pas voulu donner le signal qu'ils allaient faire comme les Coréens du Nord il y a 15 ans et aller tout chousse vers la possession de l'arme nucléaire. Par ailleurs, les Européens n'ont pas suivi les Américains sur le terrain de il faut déclarer que l'accord est mort. Les Américains ont fait pression avec succès sur les Européens sur le thème il faut ouvrir l'instruction, d'ouvrir la procédure qui permettrait le cas échéant de considérer que l'accord a été violé par l'Iran. Mais l'Europe n'a évidemment, dans ses relations avec la Chine et avec la Russie, faut pas oublier que ces pays existent, n'a aucune raison particulière de vouloir se sortir de l'accord. Quant aux sanctions, alors le paradoxe, c'est qu'on ne voit pas très bien quelles sanctions on pourrait ajouter à l'accumulation de sanctions prises contre l'Iran. Et effectivement, Trump ne veut pas faire la guerre, mais les sanctions ne vont certainement pas empêcher l'Iran de faire ce que l'Iran a envie de faire davantage que dans un passé récent.
Allez, un tour de table sur la Libye. Quand on regarde la situation en Libye, on se souvient qu'il y avait eu cette médiation française entre le Premier ministre Fayez al-Sarraj à la tête du gouvernement d'Union nationale reconnu par l'ONU et l'homme fort de l'Est du pays, le maréchal Haftar, qui avait été reçu à Paris. Aujourd'hui, quand on regarde les choses, on a vraiment l'impression que la France a perdu toute influence dans ce conflit libyen. Par ailleurs, on voit d'autres acteurs qui sont, eux, revenus, j'allais dire, en force sur le terrain. Je pense évidemment à la Turquie qui a passé cet accord de coopération avec le gouvernement d'Union nationale de Tripoli, mais aussi la Russie qui, elle a compris, hein, elle soutient les deux camps. C'est pratique parce que du coup, quelle que soit l'issue, elle sera gagnante. Comment se fait-il que, François Hesbourg, la France soit à ce point aujourd'hui disqualifiée, alors même que, rappelons-le, on est quand même un peu à l'origine de la chute de Kadhafi?
Votre question est malheureusement excellente, parce qu'il faut bien constater, effectivement, tout ce que vous venez de dire. Et ça renvoie, je pense, en grande partie à la façon dont est produite la politique étrangère française, au-delà, bien sûr, du cas libyen. Le président Macron est jupitérien. Il revendique sa jupitéritude, si je puis dire. En pratique, ça donne quoi? Ça veut dire un entourage élyséen qui est très expert, très professionnel, mais qui ne pèse pas énormément auprès du président. Et ça veut dire, de l'autre côté, un Quai d'Orsay qui est dirigé par un excellent ministre, que j'apprécie beaucoup, comme beaucoup de gens, si on en croit les sondages, mais qui a relativement peu de prise sur la production de politique étrangère par l'Élysée. Ça, c'est une recette parfaite pour avoir une perte de productivité, si je puis dire. Et dans le cas libyen, c'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi la Grèce et la Turquie paraissent jouer un rôle plus important en Libye aujourd'hui. Je dis bien la Grèce et la Turquie jouent un rôle plus important que la France, alors que nous avons tant fait pour changer la donne politique en Libye avec le renversement de Kadhafi.
Et on ne parle évidemment pas des pays du Golfe, en particulier des Émirats arabes unis. Frédéric Charillon.
Oui, ce qui est très embêtant dans cette affaire, et ça revient à ce que vient de dire François, à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a une perte d'influence de la France, mais c'est la deuxième fois. C'est-à-dire qu'il y a eu la Syrie aussi. C'est-à-dire que ça fait deux fois, en quelque sorte, si on résume, que la France, pour essayer de jouer un rôle dans cette région, en Méditerranée et Proche-Orient, sachant qu'elle ne peut plus avoir de poids sur la question israélo-palestinienne, parce que pas plus que d'autres, elle ne peut en avoir, elle a essayé quand même de peser sur d'autres dossiers. Elle a essayé de poser sur le dossier syrien au début avec une position de principe très forte, c'est-à-dire faire du départ de Bachar al-Assad le préalable à toute solution en Syrie. On s'est retrouvé, comme on le sait, relativement exclu, même assez totalement exclu, du dossier syrien. Là, sur la Libye, qui par ailleurs est en train de suivre à peu près le même chemin que la Syrie, c'est-à-dire c'est en train de devenir une guerre généralisée, ou en tout cas un test régional pour beaucoup de puissances. On remet ça, si je puis dire. C'est-à-dire qu'à nouveau, la France est partie un peu en pointe sur le dossier, en convoquant des conférences ou des réunions à Paris, et à nouveau, on se retrouve marginalisé. Alors là, évidemment, ça devient un peu inquiétant, parce que c'est dans l'accumulation que ça devient inquiétant. C'est inquiétant sur chaque dossier en particulier, évidemment. Mais là, il commence à y avoir une série très inquiétante.
11h44, on va retrouver notre partenariat avec l'association Cartooning for Peace et dessinateurs du monde entier. Le vendredi, on choisit un dessin en fonction de notre actualité du jour. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon
vieux. Assis.
Bonjour Hélène Lefrançois.
Bonjour Florian.
Alors le dessin qu'on a choisi ce matin permet de revenir sur un moment clé du virage pro-russe d'Emmanuel Macron, en tout cas dans la manière dont il conçoit les relations avec la Russie.
Oui, souvenez-vous, c'était l'été dernier. Le 19 août, le président de la République recevait Vladimir Poutine dans sa villégiature au fort de Brégançon. Ce tête-à-tête a été croqué par de nombreux dessinateurs, dont le belge Pierre Kroll, qui signe cette caricature publiée dans le quotidien Le Soir. France avant le G7, un G2. C'est son titre. Et il résume à lui seul les intentions d'Emmanuel Macron. Cette rencontre bilatérale était l'occasion d'officialiser le timide rapprochement entre les deux pays voulu par le président français. Mais le but était aussi de discuter des dossiers sensibles juste avant le G7 de Biarritz, dont la Russie était exclue, puisqu'elle n'est plus la bienvenue dans le petit cercle des grandes puissances depuis l'annexion de la Crimée. Sur ce dessin, les deux chefs d'État partagent une bouteille de champagne. Confiant, Emmanuel Macron lance à son homologue russe: c'est plus détendu ici, on va tout régler, en Syrie, en Libye, en Ukraine et avec l'Iran. Il ajoute, et puis piscine et barbecue. On décèle une pointe de sarcasme de la part du dessinateur. C'est donc ça le projet d'Emmanuel Macron, la jouer solo, créer une relation personnelle avec Vladimir Poutine et devenir le héros européen qui ramènera la Russie à la raison. Mais on imagine mal les deux hommes discuter de guerre interminable en short de bain. Et l'hubris de Jupiter est vite douché par Vladimir Poutine qui lui réplique « Vos gilets jaunes, ça va ?» Cette pique fait référence à la conférence de presse passive-agressive que les deux chefs d'État avaient donnée ce jour-là. Le maître du Kremlin en avait profité pour tacler Emmanuel Macron en évoquant les manifestations des gilets jaunes. Il n'est d'ailleurs pas le seul à avoir instrumentalisé le conflit social en France pour calmer le volontarisme de son président. Le vénézuélien Nicolas Maduro et le turc Recep Tayyip Erdogan, par exemple, s'en sont eux aussi donnés à cœur joie. Depuis le début de son mandat, Emmanuel Macron se veut ambitieux en matière de politique étrangère et tente de jouer le médiateur. Mais cette diplomatie de l'audace que le président a défendue lors de la conférence des ambassadeurs fin août lui vaut parfois des retours de bâton et des résultats mitigés.
Merci beaucoup Hélène, on met évidemment le dessin sur le fil Twitter de Culture Monde, on peut le retrouver sur Internet. Peut-être une petite réaction, François Hesbourg, avec vous, alors virage pro-russe peut-être pas, mais en tout cas une vraie rupture avec l'intransigeance affichée jusqu'ici. Emmanuel Macron dit il faut se rapprocher des Russes parce que sinon on va les jeter dans les bras des Chinois.
Et moi, d'abord.
Il a raison?
D'abord, sur l'analyse, c'est-à-dire à savoir que le problème principal est en train de devenir la relation avec la Chine et qu'il serait utile pour l'Europe que la Russie ne soit pas satellisée par la Chine, ça paraît lumineux et évident, sauf qu'il a été le premier à le dire. Donc, j'allais dire, la bonne nouvelle du côté français, c'est qu'on a un président qui pense et qui parle sur les sujets de fond, mieux et davantage que d'autres.
Depuis quand il a compris ça?
Personnellement, je ne suis pas arrivé à trouver la source d'inspiration, mais il est vrai que c'est le débat aussi aux US. Comment faire en sorte que le partenariat stratégique établi entre la Chine et la Russie soit cassé?
Donc, parce que je vais vous faire une confidence, on avait fait la première conférence des ambassadeurs d'Emmanuel Macron, on avait fait une table ronde avec Marc Semo, et on avait noté le fait que la Chine n'avait été jamais mentionné dans son discours.
Alors là, pour le coup, il a complètement changé de braquet. C'est tant mieux. Petit problème, et ça je reviens à ce que je disais sur la façon dont on produit la politique étrangère. C'est que cette idée, il l'a transformée en une préconisation qui, elle, s'avère être complètement fausse, puisqu'il dit ben, il suffit que l'Europe fasse reset à Poutine, pour faire parler trivialement, pour que se brise le partenariat russo-chinois. Ben, malheureusement, pour Macron et pour nous, ça ne s'est pas passé comme ça. Et ce faisant, il a en plus, quand il a vu que ça ne marchait pas, et du coup, que l'enthousiasme était limité, il se met à accuser ses propres ambassadeurs de faire partie d'un improbable état profond, alors qu'il y a peu d'institutions dans la République qui soient aussi pro-russes dans leur profondeur, pour cause de relations historiques entre la France et la Russie, que le Quai d'Orsay. Donc il a eu tout faux, et pour couronner le tout, et les Russes ont fait savoir, à tous les niveaux et par tous les canaux, qu'ils seraient ravis d'empocher des concessions de la part de l'Europe et en particulier de la France, mais que leur partenariat stratégique avec la Chine, ça n'allait pas être affecté en une quelconque manière par ce que nous pourrions dire ou faire avec la Russie.
Frédéric Charillon, sur ce rapprochement avec la Russie.
Oui, il y a plusieurs dimensions là-dedans. La première, c'est que bon, il y a une continuité. C'est-à-dire que la France a toujours essayé de jouer un petit peu au moins le maillon de dialogue avec la Russie. Toujours d'ailleurs sur la base du même constat. C'est-à-dire, est-ce que la Russie est un grand pays incontournable pour parler de sécurité européenne? Évidemment, la réponse est oui. Est-ce que pour autant la Russie a les mêmes intérêts que nous, est un allié? La réponse, évidemment, est non. Ça a toujours existé. Aujourd'hui, ce qui a posé peut-être problème dans l'annonce, c'est d'abord, ça a été, et on revient peut-être d'ailleurs à ce que disait François tout à l'heure au propos du processus de décision, c'est la façon de l'annoncer de façon un peu surprenante, qui a effectivement provoqué un trouble en interne dans la diplomatie, puisqu'on semblait effectivement considérer que tout le monde n'allait pas obéir, que ça venait de l'intérieur, etc. Et puis ça a surpris beaucoup effectivement nos partenaires européens. Alors là, on en a un autre problème en réalité, qui est une sorte de dégât collatéral, qui n'est plus en lien direct avec quelle relation avons-nous avec la Russie, avec etc., qui est nous avons inquiété certains de nos partenaires européens. Cette décision, enfin cette annonce plutôt, ce discours des ambassadeurs a vraiment eu une onde de choc en Europe, c'est vrai, plutôt en Europe centrale et orientale, mais une vraie onde de choc qu'il faut ensuite mettre en résonance avec d'autres décisions ou d'autres déclarations, notamment évidemment sur le veto français en quelque sorte sur l'élargissement de l'Union européenne à quelques nouveaux membres des Balkans. Tout ça a donné le sentiment qu'effectivement la France prenait des positions fortes et importantes sans consulter ses partenaires européens, et parfois peut-être d'ailleurs sans consulter l'ensemble d'un processus de décision interne.
L'exemple type, ça avait été, après justement ce tournant annoncé à la conférence des ambassadeurs, ça avait été l'interview Asie Economist sur la mort cérébrale de l'OTAN. Et voilà. Si vous mettez ensemble mort cérébrale de l'OTAN, blocage de l'élargissement à l'Est et tournant pro-russe, il y a de quoi mettre en émoi à peu près toute l'ancienne Europe dominée par les soviétiques. Et c'est pas très heureux pour quelqu'un qui cherche, finalement, dans un moment où l'Allemagne est affaiblie et le Royaume-Uni part de l'Europe, à jouer un rôle leader en Europe.
Moi, j'ai suivi très près l'affaire du Economist. Il s'est passé 18 jours entre le moment où l'interview a été faite à l'Élysée et le moment où ça a été mis en ligne. 18 jours, et la date d'ailleurs de mise en ligne étant connue. Donc il y avait 18 jours pour préparer nos partenaires à la bombe qui allait éclater. Moi j'ajoute que l'interview du Economist, elle est brillante, elle est remarquable. Et les meilleurs analystes et des meilleurs think tanks n'aurait pas pu faire mieux, ni même peut-être aussi bien, qu'Emmanuel Macron. Mais pendant 18 jours, vous cachez votre copie et vous vous attendez à ce que les Allemands, les Britanniques, les Américains, les Russes, les autres, vous félicitent lorsqu'ils découvrent le bébé que vous leur avez caché. Non, tout le monde va considérer qu'il a été méprisé, marginalisé, périphérisé. Le dommage collatéral, comme disait à juste titre Frédéric, le dégât collatéral a été immense. Et puis il y a un petit problème structurel, c'est qu'effectivement, comme on en parlait au tout début, c'est comment diriger des gens qui n'ont pas envie d'être dirigés ou qui ne sont pas en état de vous suivre. Le Royaume-Uni avec le Brexit, l'Allemagne avec sa paralysie interne, avec une grande coalition défaillante, les États-Unis qui sont, alors non, c'est plus la mort cérébrale, là c'est plutôt le cerveau qui déjante. Et le résultat, c'est que vous avez beau dire des choses intelligentes.
C'était à propos de l'OTAN qu'il avait dit ça, pas à propos.
Mais je veux dire, on peut avoir les meilleures idées de la Terre. Et s'il n'y a personne pour nous suivre, on n'ira pas très loin. Hein.
Frédéric Charion, est-ce qu'il faut comprendre qu'en réalité, il y a peut-être aussi chez Macron un problème de méthode? On le voit avec ses partenaires européens. C'est vrai que quand il est arrivé, tout le monde le voyait comme le nouveau leader de l'Europe. Et par ailleurs, un certain nombre de partenaires étaient ravis de le voir arriver, pour les raisons que disait tout à l'heure Marc, notamment Angela Merkel, affaiblie, une Allemagne qui par ailleurs n'a jamais vraiment complètement assumé l'idée de porter seul ce leadership. Il avait eu très belles idées de relance, notamment on s'en souvient à la Sorbonne, dans son discours de la Sorbonne, et puis finalement tout ça fait un petit peu de cheat. Il n'obtient pas ce qu'il veut, ni en matière de défense, ni en matière de budget, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça marche pas? Est-ce que c'est un problème de méthode, comme l'avait l'air de laisser entendre?
Il a réussi quand même à attirer l'attention sur le discours français en matière de politique étrangère. Il a constitué un phénomène à son arrivée. Je suis pas sûr que ce phénomène se soit totalement atténué. C'est-à-dire que Macron est devenu quand même un centre d'attention de la politique internationale. Ce qu'il dit est écouté. Et d'une certaine manière, on pourrait même dire, plus il fait ce genre de coup d'éclat, plus ce qu'il dit est écouté. On est peut-être aussi entré dans un monde où, après tout, ce genre de communication, regardez Trump. Trump n'arrête pas de défier toutes les lois de la gravité, dans tous les sens du terme d'ailleurs, sur Twitter, et il est d'autant plus écouté. C'est aussi une méthode pour être écouté. Ce qui pêche plutôt, je crois, du côté français, c'est au-delà d'Emmanuel Macron, c'est qu'on continue parfois de se comporter comme si on était au tout début de la construction européenne, on était 6, dont seule la France pouvait légitimement revendiquer le leadership, surtout évidemment avec la personnalité du général de Gaulle. Nous ne sommes plus 6 dans l'Union européenne, on ne peut plus continuer à faire comme ça, on ne peut plus continuer à crier vive le Québec libre ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, en solo si je puis dire, en attendant des exclamations. Et puis surtout, deuxième problème beaucoup plus grave, les moyens. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre le discours et les moyens. Et de plus en plus, on a l'impression que la force du discours, ou parfois la provocation du discours, sert à compenser en fait un manque de moyens pour peser sur tout cela.
On n'est plus 6, François Hesbourg, mais on n'est plus non plus 28, en tout cas bientôt. Est-ce que le départ de la Grande-Bretagne, ça peut offrir une opportunité?
Alors,
la France,
pour
se replacer, j'allais dire, au cœur du dispositif?
D'abord, il y a du temps du général, on était au moins 2. C'est-à-dire Adenauer et De Gaulle travaillaient ensemble. Aujourd'hui, on est même plus 2. On est 1. Et c'est ça qui est important. C'est pas le fait qu'il y ait 27 ou 28 membres dans l'Union européenne, c'est le fait que le moteur franco-allemand, qui reste au cœur du système, il suffit pas pour entraîner l'ensemble du système, mais quand il fonctionne pas, rien ne bouge. Mais dans à peu près aucun domaine. Alors ce moteur, il a essayé de le relancer, avec le fameux discours de la Sorbonne, septembre 2017, la politique allemande, là pour le coup, là, c'est pas la responsabilité de la France, la politique allemande ne s'y prêtait vraiment pas. Quant au Brexit, nous, notre problème maintenant, notamment en matière de politique de sécurité et de défense, c'est comment maintenir nos relations privilégiées avec le Royaume-Uni en la matière, alors que le Royaume-Uni ne sera plus dans l'Union européenne. C'est pas une opportunité, c'est une contrainte et un problème supplémentaire. Là encore, on n'y est pour rien. Mais malheureusement, ça réduit notre mobilité.
C'est un titre qu'on peut traduire par vulnérabilité, qui faisait écho peut-être à la diplomatie française, en tout cas quelques difficultés. C'est une chanteuse israélienne, Hadar Nehemia, qu'a choisi ce matin Benjamin Huon. Évidemment, vous retrouverez la référence de cette musique sur le site de France Culture. Merci beaucoup Frédéric Charillon d'avoir été avec nous. Je rappellerai notamment Notre intérêt national, c'était chez Odile Jacob, François Hesbourg, Cette étrange Nazie qui sauva mon père, et d'autres ouvrages encore dont nous mettrons les références sur la page de Culture Monde. Merci infiniment à tous les deux. Merci Marc Semo, notre partenaire le vendredi. On se retrouve vendredi prochain, Marc. Dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et La Grande Table.